Ève Tov, les Koulam, et on revient dans notre étude du livre de Shemot. Mais avant de poursuivre, il paraît qu'il y avait des questions sur ce qu'on avait vu. Alors, je t'en prie.
Alors, tu avais parlé de la Touma et la Tahara.
Oui, certes.
Et que la Touma, elle prenait le dessus
sur la Tahara. Tout à fait.
Maintenant, si on met la Touma avec la Kdusha,
ben, c'est comme mélanger les torchons.
Et les sablés.
Non, et les concombres. C'est-à-dire que, autant les torchons et les serviettes, on peut penser qu'il y a un tzad de les mélanger. Parce que Erchéou, c'est dans les deux cas des morceaux de tissu avec lesquels on s'essuie les mains. Mais les concombres et les serviettes, rien à voir. Donc la Kedusha et la Touma, ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir. Ok. La Kedusha par rapport à la Tahara.
Non plus. La Tahara, c'est un moyen d'arriver à la Kedusha. C'est vrai que quand tu es tamé, ça va être compliqué d'être Kadosh. Mais ce n'est pas que la Kedusha, c'est l'inverse de la Touma. Ça, c'est notre conception française des choses, avec le français. L'impureté, la sainteté. Non. Pureté, impureté. Oui. Sainteté et pas saint.
D'accord.
Ok, c'est bon. Ça va? Tov. Alors nous pouvons donc reprendre notre étude du livre de Shemot au chapitre Lamed, verset Yud Aleph, qui est également le premier verset de la paracha de Kitissa. C'est-à-dire, nous ouvrons une nouvelle paracha. Pour les livres blancs, c'est la page 142. Et allons-y. Donc on a terminé a priori, parce qu'on va voir qu'il y a encore des petites choses à régler, mais on a terminé a priori l'ordre de construction du Mishkan.
Ah oui, pour les 11 espèces.
Oui, on va y revenir.
Ah d'accord.
T'inquiète pas, on va y revenir. Donc on a a priori terminé. Et là, nous dit la Torah, « Vaydaber Hashem el Moshe l'emor. Kitissa et rosh b'nei Yisrael l'ifkudehem, venatenu ish kofer nafsho la Hashem b'ifkod otam. » Velo yebem negef bifkod otam. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Kitissa et roche bene Israël. Mais c'est la sept roches.
La sept.
Ken. La sept, ça veut dire élevé. De la même façon que la sept et naïm, ça veut dire regarder vers le haut, vers le lointain. La sept roches, c'est relever la tête de chacun. Alors ici, dans le contexte du texte, ça veut dire que lorsque tu vas compter les Bnei Israël, tu ne peux pas les compter 1, 2, 3, 4, 5. Tu dois la 7 et Rosham, Venatnu, Ishkofer, Nafsho, Bifkod, Otam. C'est-à-dire que chacun va donner quelque chose pour qu'on le compte. Ça va être le principe du Machatzit HaShekel. Ok ? D'ailleurs, c'est la paracha qu'on lit dans Parashat Shkalim. C'est-à-dire, c'est cette partie-là qu'on lit. Là, on va parler maintenant de Machatzit HaShekel. C'est-à-dire qu'on va donner quelque chose. Mais avant de rentrer dans les versets même du Machatzit HaShekel, qu'est-ce que ça vient nous apprendre ici? La paracha de Kitissa, quel est son sujet principal? Alors, c'est vrai que nous, dans notre étude, on ne fait pas une étude de paracha. C'est une étude verset après verset. Mais on ne peut pas ne pas connaître l'entièreté de la chose. Et on sait que la paracha de Kitissa, ben, son sujet principal, c'est le vaudor. C'est-à-dire, on ne va pas encore arriver au vaudor aujourd'hui, mais c'est le truc du truc. Et donc, dans une paracha qui traite de la faute, eh bien, on aurait pu penser que celui qui faute, out. Que celui qui faute n'a pas sa place au Beth Amikdash. Ou au Mishkan. Eh bien, non. Kitissa et Rosh Bene Israël Bifudem. Tu vas compter tout le monde. C'est quoi, tu vas compter tout le monde, y compris celui qui faute. Parce que, et ça c'est un grand principe du judaïsme, Afalpi Shechata Israël Hu. Bien qu'il ait fauté, il reste membre à part entière du peuple juif.
C'est comme il avait dit pour la Ktoret.
C'est ça. C'est pour ça que ça fait suite. C'est-à-dire que ces versets-là font directement suite à la Ktoret. C'est-à-dire, donc c'est exactement ça. La notion ici est de dire, tu dois le prendre en tant que membre du peuple juif et pas en tant que quelqu'un qui a fait du bien ou pas fait du bien. Mais là, on parle de la set auto pour l'echaber auto el akodesh, pour le décompter, pour qu'il fasse partie de la kedusha du peuple juif. Et donc la question, c'est est-ce que quelqu'un qui faute peut également s'intégrer dans la kedusha? Dans les autres religions, celui qui a fauté, il est éloigné, ça y est, c'est terminé.
Mais on parle pas de tamé, là.
On parle pas de tamé, de quelqu'un qui faute. Pardon ?
Pardon ?
Quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, il n'est pas tamé.
Okay.
Il est juste Mechalel Shabbat, enfin, juste.
La faute et l'impureté, c'est deux choses.
Oui, c'est deux choses qu'on m'a demandé. Tu peux être tamé sans avoir fait aucune faute.
Oui.
Une femme qui a ses règles, elle n'a pas fait de faute.
Oui, d'accord, mais dans l'autre sens, non. Dans l'autre sens, il peut être Mechalel Shabbat et pas être
tamé. Et
être Tahor.
Bah oui. Donc ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir.
Okay. C'est bon ?
Ouais,
la faute, c'est la faute. L'impureté ou l'impureté, c'est deux choses différentes. Ok ? Donc, le fait qu'il soit fauteur ou pas ne va pas empêcher d'être rattaché à la sainteté. Il y avait un homme qui avait beaucoup de mal avec ça. Il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Yaakov Ben Zeev Walowski, ou alors plus connu sous son diminutif Rabbi Yaakov Ritbaz. Le Ritbaz, Rabbi Yaakov Ben Zeev Walowski, était un Talmid Chacham Gadol. Il a fait son alia dans les années 20 et il a écrit un commentaire sur le Talmud à Yerushalmi. Qui s'appelle Mare Panim. C'est pas un petit joueur, le mec. Il a étudié dans sa jeunesse à la Yeshiva de Volojim et l'un de ses, on va dire, comme on dira en hébreu moderne, un de ses ramim, un de ses copains d'enfance, mais qui en fait était quelques années au-dessus de lui, qui lui apprenait la Torah, c'était le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Cook, quand il était jeune à l'Yeshiva de Volojine. Et bon, ils ont chacun évolué. Et Rabbi Yaakov Ritbaz, quand il arrive en Israël, émet une critique très forte contre le Rav Cook. Sur plein de sujets techniques de Halakha, comme par exemple le Heter Amechira de la Shemitah. Mais ce qui le dérange le plus, c'est les liens amicaux, voire très amicaux, qu'entretient le Rav Kook avec les Chilonim. Avec les gens qui sont en Israël, qui sont en train de construire le pays, mais qui ne sont pas religieux. Et ça dérange beaucoup Rabbi Yaakov Ritbaz, parce qu'il dit, ces gens-là ont pris 3 fois par jour qu'ils disparaissent. Parce que pour lui, la bracha de Birkat Aminim dans la Shemona Esre, dans la Amida, il pense que c'est contre les Chilonim. La birkat aminim, dans la Amida, tu dis la minim ve la malchinim al teitik va ve chol azedim meira yovedu ve chol oivea mecha
yisra. Mais là, c'est pour enlever les choses pas bien, mais pas les personnes.
Non, birkat aminim, tu exclus les gens.
On exclut les gens.
Bah oui, tu fais la Amida de temps en temps.
Si, je la fais, mais je vais l'enlever avec la
traduction. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Même dans la traduction qui est fausse, il y a quand même marqué et ceux qui sont comme ça, ceux qui sont comme ça, ceux qui sont comme ça. Non, on enlève, on dit, c'est une bracha contre des gens. Contre des gens, pas les gens en général, mais contre des gens. Rabbi Yaakov Ritbaz, il pense que ces gens en question, ce sont les chilonim. Ah, il se trompe. C'est-à-dire,
c'est
Birkat Aminim, c'est contre les chrétiens.
Ah, contre les chrétiens.
Les premiers chrétiens, c'est là que ça a été mis en place à l'époque, contre les premiers chrétiens. Aujourd'hui, c'est toute personne qui veut du mal au peuple juif.
Ok,
okay. Maintenant, Rabbi Yaakov Ritbaz, lui, il pense que c'est contre les chilonim. Le Rav Kook va donc lui répondre. Et va lui expliquer qu'il a tort, et va lui expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la Kedusha du peuple juif. C'est dans sa fameuse lettre 555, la lettre la plus tunisienne du Rav Kook, 555 quand même, hein, ça ne s'invente pas, dans laquelle le Rav Kook explique c'est quoi la Kedusha dans le peuple juif. Et il nous dit qu'il y a 2 sortes de Kedushot dans le Am Yisrael. L'une s'appelle la Segula, et l'autre s'appelle la Bechira. La Segula, nous dit Rav Kook, c'est la Kedusha qui est intrinsèque à ton identité parce que tu es le fils de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Revela. Point. C'est-à-dire que tu es descendant des Avot, t'es Kadosh.
Sans rien faire.
T'as rien fait. Tu as acquis ça. C'est Yerushat Avot. C'est l'héritage de tes pères. La deuxième Kedusha, Kedusha de la Bechira, dépend de tes actions. Maasim tovim velimut Torah. C'est-à-dire les mitzvot, Torah, mitzvot. Me dit le Rav Kook, les deux kdusha sont présentes, mais lorsque tu ne fais pas la Bechira, c'est-à-dire que tu ne fais pas Torah, mitzvot, alors tu ne reçois pas la kdusha liée à tes actions, et la kdusha intrinsèque qui est là, elle ne peut pas se dévoiler. Ce qui fait que tu as tout perdu. Elle est là, mais tu ne la dévoiles pas, et l'autre, tu ne la récupères pas.
Et elle reste en lui.
Elle est en lui, mais elle ne se dévoile pas. Et donc, il va expliquer au Ribas. Donc, les Chilonim, ils ont une kdusha en eux. Ils n'arrivent juste pas à l'exprimer. Il faut les aider à l'exprimer. C'est-à-dire ? Mais donc, ça veut dire que, quelle que soit ta pratique, quand tu es membre du peuple juif, eh bien, tu restes dans la kedusha.
C'est
la Nekudat Tova,
comme tu
dis. Oui, mais pourquoi ? Parce que tu peux toujours, à un moment donné,
c'est ça.
Tu vois ?
Voilà,
ouais. Tant que tu ne mets pas fin à tes jours, tout seul, alors tu peux faire tes chouvas. C'est sûr que si tu mets fin à tes jours tout seul, c'est compliqué de faire tes chouvas après. C'est vrai ? Mais l'idée, c'est que la chouva, elle est toujours possible. D'accord ? Donc, qui dit ça ? Donc, c'est très important de dire ça dans la paracha qui va ouvrir l'histoire du Vaudor. Qui dit ça ? Et Roche, Bene Israël, Lifkudem, Venatenu, Ishkofer, Nafsho, La Hachem, Bifkod, Otam, Velo, Yebaem, Negef, Bifkod, Otam. En faisant ça, c'est-à-dire en prenant un substitut à la personne pour la compter, il n'y aura pas de destruction sur le peuple juif. Pourquoi il y aurait une destruction si jamais je les compte ? Vous savez qu'on n'a pas le droit de compter dans le peuple juif. On compte un truc qui représente la personne. Pourquoi on n'a pas le droit de compter les gens ?
Peut-être on les assimile à des choses.
Parce que je suis un chiffre.
Voilà, c'est ça, on les assimile à des choses.
Mazé. Ma grand-mère, ils ont essayé de lui mettre un chiffre sur le bras et de la réduire à cela. Mais c'est pas nous. Je me rappelle que ça m'a valu de me faire punir pas mal de Shabbatot quand j'étais à l'armée. Parce que je refusais de m'énumérer par mon numéro. Chaque soldat de l'armée, il a un numéro. C'est son mispar ishi, son numéro personnel.
C'est incroyable.
Ça, c'est Bibi. Enfin, pas Bibi l'autre, Bibi moi. Donc je m'en souviens, je le connais. Mais je l'ai appris tout de suite. Mais je refusais, quand on me disait c'est quoi ton nom, Mispar Ishi, je disais je te dis pas. Alors quand j'étais devant une secrétaire qui avait besoin de rentrer mes données, je lui donnais. Mais quand Stam, l'officier ou le mec qui disait Mispar Ishi, il dit non, moi je m'appelle Étienne Fison. Ah, tu veux pas me dire ton numéro ?
Je dis non. C'est incroyable qu'après la Shoah, il
dit. Oui, mais c'est l'armée, c'est les militaires, ils réfléchissent pas autrement. C'est pas méchant, il ne demandait pas ça méchamment. C'est pas de l'antisémitisme. Mais non, il n'y a pas. Hein, on n'est pas des numéros. Parce qu'en fait.
La Théodat Zéhout, c'est un numéro aussi.
D'accord. Mais tu peux demander, c'est quoi ton numéro de Théodat Zéhout à toi, Ethan ? C'est-à-dire, alors je suis Ethan, mais ok, j'ai un numéro pour aider à retrouver dans l'ordinateur. C'est-à-dire. Maintenant, parce qu'il y a peut-être un autre Ethan Fison. On ne sait jamais. Maintenant.
Il peut y en avoir deux.
Ben, il peut. Maintenant, dis-moi, des Shmuel Koskas, j'en ai sûrement plus qu'un, j'imagine. Maintenant, là, si je devais dire, qu'est-ce qui se trouve, c'est quoi le domaine du vivant qu'il y a dans cette salle ? Est-ce que je peux dire qu'il y a un tel, ou alors je dis, il y a à peu près, 400 kilos de viande. C'est vrai aussi de dire qu'il y a à peu près 400 kilos de viande. Ici. C'est vrai. C'est pas faux. C'est pas faux. Quoi, tu me regardes comme ça. On est de la viande. Non ? Bah si, on est. Bah si. C'est pas faux de dire qu'il y a sur toi une quantité X de viande. Donc dire qu'il y a dans cette salle à peu près 400 kilos de viande, c'est pas faux. Mais c'est pas moi. C'est pas
réducteur.
Bah évidemment. Donc tu vas pas me réduire à un numéro. C'est-à-dire, le moment, je vous rappelle, alors c'était il y a longtemps quand on a étudié le livre de Bereshit, mais je vous rappelle que c'est ça qui a amené le déluge. C'est quand Vayechel Adam Larov al Pene Haaretz, Pene Adam Asira, qu'on était ribouille et non pas Echout. qu'il y avait la quantité et non plus la qualité. Donc ici, si on commence à compter les gens, ça n'est que des quantités.
C'est-à-dire qu'au début, quand il a créé le monde, il a dit multipliez-vous.
Il a dit croissez et multipliez. C'est-à-dire qu'il a dit Pérou pour vous. Quand il y a les deux, ça marche, parce qu'il y a l'identité et la quantité. Mais s'il n'y a plus que la quantité, c'est un problème. D'accord ? Zeitenu. Alors, qu'est-ce qu'on va donner justement pour me substituer à moi ? Kol haover ala pekudim, machatzit ha-shekel, be-shekel ha-kodesh, esrim gera ha-shekel, ha-shekel sera machatzit ha-shekel teruma l'Hashem. Donc, on va donner machatzit ha-shekel. C'est combien ? Si, aujourd'hui, on dit machatzit ha-shekel, c'est à peu près 13 shekels. Ça correspond à peu près à 13 shekels aujourd'hui. Mais shekel d'argent, ça a une valeur particulière et ça représente plus ou moins ça. C'est-à-dire, machatzit à shekel. Mais pourquoi on m'a demandé de me donner machatzit et pas un shekel ? Plus simple. Demande à chacun d'amener un shekel, tu vas compter combien de shekels, tu auras le nombre. Là, tu es obligé de compter combien tu as de machatzit, le multiplier par deux, le diviser.
Non.
Ben oui, parce que tu ne peux pas te suffire à toi-même. Tu as besoin de l'autre. Donc le simple fait que toi, tu saches que ce qui te représente, ce n'est qu'une moitié, ben, ça montre qu'intrinsèquement, tu as besoin de l'autre. D'accord ? Donc qui doit donner machatzit ha-shekel ? Kol ha-over ala pekudim, mi ben esrim shana v'mala, yiten terumat Hashem. Toutes les personnes qui sont âgées de plus de 20 ans. Pourquoi ? On est responsable à 13 ans d'après la halakha.
Non, à 20 ans. On reçoit tout le monde déjà à 20 ans.
Ah bon, et à 18 ans, le mec, il est un coquille vide.
Non, mais j'avais entendu qu'on recevait pas toutes les parties de la Neshama.
Pas toutes les parties de la Neshama. À 13 ans, tu es responsable de tes actes d'après la halakha.
Non.
Après les événements qu'on a vécu la semaine dernière, on doit se rappeler que ce qui est important dans le judaïsme, c'est la halakha.
Mais dans la halakha, il
ne
parle pas aussi de 20 ans.
Dans la halakha, si. Mais dîner shamaïm, Dieu il te juge à partir de 20 ans. Mais ce n'est pas la halakha. D'après la halakha, si j'ai volé à 13 ans et 2 jours, je vais au Beit Din.
Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière ?
Oh ben, je ne sais pas si tu as entendu. Il y a une histoire qui a secoué le monde.
Haredi,
l'écrivain.
C'est quoi ton ami, tiens ?
Eh bien, mon ami, je pense que tu fais partie de mes groupes WhatsApp. Tu reçois mes vidéos tous les jours, n'est-il pas ?
Oui, mais il y en a tellement.
C'est la vidéo de ce matin, mon ami.
Et justement, je suis Koulom et Boulbal.
C'est ça, Koulom et Boulbal. Donc, je t'invite à réécouter la vidéo.
Nous, Bémet. Mais non, mais ça va être. Il y a des milliers d'auditeurs qui t'écoutent.
Mais justement, ils ont tous entendu ce matin.
Nous, Bémet.
Quoi ?
Qu'est-ce que t'en penses ?
Mais j'ai tout dit. Et en plus, j'ai dit ça Shabbat aussi. À la synagogue.
J'étais pas là.
C'est ça. Qu'est-ce que j'en pense ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je pense que c'est dramatique.
Moi, je pense que c'est dramatique, mais je pense quand même que c'est, ils l'ont pas mal traîné dans la boue.
Absolument pas. Bon. Moi, je pense que ça a été fait de manière tout à fait bien. Et je pense que c'est scandaleux, mais absolument scandaleux, de chercher à lui trouver une fausse histoire, de trouver des excuses, de dire que c'est pas vrai, c'est encore pire.
Ah, ça, c'est pire.
C'est quoi, j'ai pas entendu.
Il y a un écrivain très connu, non, si tu permets, il s'appelle, qui en même temps, c'est un truc vraiment israélien, était psychologue, c'est ça ?
Bon, j'enlèverais complètement la phrase que tu viens de dire, parce que
Non, il recevait des gens, juste un écrivain.
Non, c'est pas ça que tu as dit. Et ça, c'est complètement israélien. J'enlèverais cette phrase complètement.
Non, dans le sens où tu veux dire, le mec, tu demandes. Oh, ben, c'est vrai que
ça n'existe pas en France. Ça n'existe pas aux États-Unis. Ça n'existe pas dans les autres pays. Non, c'est. Non, slicha. Tu crois comme ça que lashon hara sur le clan Israël, je vais te laisser comme
non,
ça la flic.
Non, c'est pas du lashon hara, c'est juste que c'est vraiment quelque chose d'original.
C'est pas du tout, malheureusement, c'est pas du tout original.
C'est pas original.
Non, c'est pas du tout original. Tu veux que je te dise le nombre de personnes qu'on a entendues, excuse-moi, dans le monde chrétien en France, dans le monde de l'ecclésiastique.
Mais attends, deux secondes.
Tu es en train de me dire que
c'est
israélien.
Le mec était écrivain et psychologue, c'est tout. Je dis pas que c'était original qui était.
C'est pas israélien, ça.
Je te parlais juste.
Il y en a plein partout.
Mais je te disais, le mec était journaliste, écrivain, et en même temps, c'est ça.
Il n'était pas journaliste d'abord.
Si, il était journaliste, il écrivait dans Maté Nehemman, un truc comme ça.
Yated Nehemman, mais c'est... Il n'écrivait pas en tant que journaliste. Quand le Rav Cherki, il écrit un Mahamar dans un journal religieux, il n'écrit pas en tant que journaliste.
Ok.
Ok. Donc il n'était pas du tout journaliste. Il était un des garde-fous de la pensée du journal de Yated Nehemman. Non, c'est-à-dire qu'il était en tant que statut d'écrivain et de psychologue, psychothérapeute de couple, d'éducateur des jeunes.
C'est pour ça que je disais que c'était original.
Oui,
c'est
mais
tout.
Ça n'a rien d'israélien.
C'est pas l'Union. Dans tous les cas, cet homme, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont venues dire qu'ils ont été agressés sexuellement, dont des enfants, des femmes. Tu as tout le spectre des gens qui sont venus et qui ont dit et tu connais, ça marche. Il y en a un, puis il y en a deux, puis il y en a trois, puis tu te rends compte au bout d'une semaine.
Il y a eu 22 témoignages. D'accord.
Et comme on dit, ça fait un énorme tremblement de terre dans le milieu de et cet homme-là s'est suicidé. Et donc ça crée, et maintenant, le débat. Il y en a qui disent
non, mais c'est pas ça,
c'était du lachon hara, il a été très bon, il n'a pas laissé la possibilité de se défendre. Il y en a d'autres qui disent, Bretagne,
alors,
qui
disent non,
tout lui a été, enfin, c'est pas du lachon hara. Et en gros,
je vais vous expliquer une chose très simple. D'abord, il n'y a même pas de débat de savoir si c'est du lachon hara ou pas. C'est absolument pas du lachon hara parce qu'il y a des halachot sur le lachon hara. Deuxièmement, c'est pas vrai qu'il n'y a pas eu la possibilité de se défendre, c'est complètement faux. Puisque le Rav Shmuel Eliyahu lui a fait un bet din et lui a parlé plusieurs fois. Il lui a même dit qu'il ne le reconnaissait pas lui en tant que bet din, en tant que rave truc. Il a dit, il n'y a pas de problème, dis-moi quel rave tu veux. Mon kavod, il n'est pas important, a dit le Rav Shmuel Eliyahu. Je m'en fiche de moi. Dis-moi quel rave tu veux qui te juge, il n'y a pas de problème. C'est, on va chez toi, sur ton terrain. Il a donné le nom d'un rabbin et finalement il a dit non, la veille, il a dit non, finalement je veux un autre et il ne s'est pas présenté. C'est-à-dire, c'est pas aussi, on ne lui a pas laissé le moyen de se défendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le plus grave, lui, il a fait quelque chose de terrible et après il a décidé de se mettre fin à ses jours, ça c'est son problème. Mais le plus grave, ce n'est pas ça, c'est la réaction d'une grande partie du monde haredi qui a décidé de lui faire un aspect d'un éloge funèbre, gdolador, ce que tu veux. C'est-à-dire cette volonté de toujours nier les faits. Et c'est très grave. C'est très, très, très grave.
Bah oui.
D'autant plus qu'il n'y a aucun doute.
Ah voilà, c'est ça.
Il n'y a aucun doute. C'est-à-dire que le Rav Shmuel Eliyahu nous a expliqué, et il nous a raconté tous les témoignages, et il a reçu, machin, là, et c'est pas lui tout seul. Hein. C'est plusieurs rabbanim. Il y a zéro doute. Possible. Donc c'est malheureux. Enfin, tout ça pour te dire que c'est compliqué. Et je disais ça, pourquoi ? Parce que quand on dit la halakha, non, la halakha, c'est pas chez Rachoud.
Mais là, il y a un deuxième niveau.
Oui.
Le suicide est totalement, comment dirais-je, dans la Torah, le suicide.
Oui, il est interdit. Oui, mais ça, c'est le problème de celui qui s'est suicidé. C'est son problème personnel avec eux.
Hein? C'est quelque chose qui est totalement, absolument interdit. Ça fait...
Mais ça, je m'en fiche complètement, moi.
Comment?
Je m'en fiche complètement.
Non, mais je m'en fiche.
Ah non, mais je t'explique.
Pas pour la personne. Ça fait bizarre. Mais elle, qui est censée représenter une pensée.
Mais non, t'as pas compris.
De...
Excuse-moi de te le dire, mais je pense que là, on est. Là, c'est la preuve, ce que tu dis, de la chute terrible dans la religiosité exacerbée.
Oui, c'est ça.
Non. Ce que je te dis, c'est contre toi, c'est pas contre lui. Écoute-moi ce que je te dis. T'as raison que c'est assourd de se suicider dans la Torah. Et t'as raison que quelqu'un qui représente la Torah, une pensée toranique, bah quand même, se suicider, c'est quand même l'inverse complètement.
Oui,
mais je m'en fous de ça. Parce que ce qui te dérange, c'est qu'il soit suicidé et que c'est interdit dans la Torah et qu'il était religieux. Mais
non,
c'est tout en temps.
C'est tout. Un filou lâcher aussi grand.
De quoi ? De suicider ?
Non !
Mais je m'en fiche du suicide !
Mais c'est son action qui...
Oh, donc ça veut dire que le suicide, je m'en fiche complètement ! C'est-à-dire que c'est Bémet le Khachouv ! C'est son problème avec Dieu ! Maintenant, le vrai problème du Khilul Hashem, c'est le viol des gens !
J'ai pas dit le contraire !
Eh bien, mais si, parce que si on s'offusque et que ça nous dérange... Je veux dire, j'ai parlé avec une personne haredite vendredi, qui me dit, moi, mon problème, c'est qu'il soit suicidé. Comment je raconte ça à mes enfants qui s'est suicidé ? Je dis, mais je m'en fous ! Mais je m'en fous comment tu racontes ça à tes enfants. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'autre côté.
Moi, le problème, enfin, moi, ce qui me choque, enfin, c'est ce SMED qu'ils ont organisé.
Ça en plus. Ça en plus, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème.
Attends, enfin, dernière question. Oui. Je crois que c'est justement Shmuel Eliyahu qui a dit qu'il fallait jeter ses livres.
Tout à fait.
Tout ça. On ne fait pas de distinction entre la personne
absolument
et son
âme. Pas.
Pourquoi?
Parce que je sais que c'est une grande mode en ce moment en France, particulièrement. Il y avait eu beaucoup de paroles, pas que autour des écrivains, mais il y avait eu beaucoup de débats autour de la cancel culture. Est-ce qu'il faut séparer l'œuvre de l'auteur et tout ça, machin? C'est absolument absurde de séparer l'œuvre de l'auteur.
Pourquoi?
Parce que, d'après le judaïsme, la notion fondamentale du judaïsme, c'est la hardout. Et que donc, ça veut dire quoi? Si tout d'un coup, l'auteur, il a écrit des choses qui sont littérairement jolies, mais que c'est un pourri, je vais lui faire de la pub.
Oui, ça, c'est veut dire que
c'est complètement absurde. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas écrire des choses jolies. Je n'ai pas suffisamment de qualité littéraire pour savoir reconnaître une belle œuvre littéraire ou pas. Mais je ne dis pas que ça ne peut pas être joli, de la même façon que là on parle dans le domaine de la littérature, mais prenons un scientifique. Un scientifique, il peut avoir trouvé un médicament qui marche, mais c'est un mec pourri. Bon, ça ne veut pas dire que je ne vais pas utiliser le médicament, mais ça veut dire qu'il est évident que je ne vais pas lui faire de la pub au mec. Je ne le connais pas perso, je ne sais pas quelle était sa vie personnelle. Je ne sais pas, mais quelqu'un qui a un pourri dans sa vie personnelle, je ne suis pas obligé de reprendre ses œuvres.
Mais c'est
franchement.
Bien. Mais ils ont, enfin, le Rav Shmuel Eliyahu a dit qu'il fallait le jeter en mode
de. Non, ça c'est. Non, il y a deux choses. Il y a le coup, séparer l'œuvre de l'auteur. Ça c'est une première chose. Je pense qu'on ne peut pas séparer l'œuvre de l'auteur, c'est absurde. Quelqu'un qui est antisémite et qui te fait une œuvre magnifique littéraire, ben non, je ne vais pas le lire.
Mais d'accord, ben ça nous touche, mais.
Mais c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord, c'est de juger les gens du passé avec les valeurs du présent. Ça, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que je ne pense pas, comme la cancel culture aujourd'hui, qui te dit il faut déboulonner des statues de grands hommes du XVIIe ou du XVIe siècle, brûler des livres, machin, parce que ces gens-là étaient esclavagistes. Non mais, mon ami, quelqu'un il y a 2000 ans qui pratiquait de l'esclavage, ou il y a 500 ans qui pratiquait de l'esclavage, c'est pas bien. Mais moi, je regarde ça avec mes yeux du XXIe siècle, parce que Baruch HaShem, aujourd'hui, tout le monde sait que c'est pas bien l'esclavage. Mais à l'époque, c'était même pas un débat. Donc je pense pas qu'on peut regarder le passé avec les yeux d'aujourd'hui. Donc ça, je ne dis pas. Par contre, il y a des choses qui ont toujours été prohibées par la société. Un meurtrier, je pense qu'à aucun moment, c'était reconnu comme étant bien. Donc quelqu'un qui serait meurtrier et qui a pondu une belle œuvre, non, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Non, tu n'es pas d'accord?
Oui, c'est sûr. Mais ça
j'en
creuse
ton
œuvre,
ton ballon. Par rapport.
Il a fait des choses mauvaises, qu'on sait. Mais ça veut dire, tu vois, après de faire une croix sur absolument tout ce qu'il a fait toute sa vie, je trouve que c'est problématique.
J'ai pas dit ça non plus.
De la même façon, si tu me permets juste, et c'est toi qui me l'avais appris.
Oui.
Quand on avait parlé un jour d'Arié Derry.
Oui.
Et je t'avais dit, je trouve que c'est honteux que ce mec-là, après qu'il ait été condamné et reconnu coupable de. À l'époque, c'était.
Histoire d'argent.
Pot de vin, voilà.
Qu'est-ce que je t'ai dit?
Qui puisse revenir. Et tu m'as dit non, Dafka, je pense que c'est très bien parce que ça parce qu'on a le droit, là, tu vois, on a le droit à une deuxième chose.
Et
c'est très bien que le système israélien.
Attends, et t'oublies un autre truc. J'ai dit autre chose. Tu peux pas me dire la moitié. J'ai dit, il a payé sa dette à la société, il a volé, il a été en prison, il a payé sa dette. Une fois qu'il a payé sa dette et qu'il a fait tchouva, c'est rare. C'est normal qu'il ait le droit de revenir. C'est dans la halakha. Tu as volé quelque chose à quelqu'un, tu l'as remboursé, tu as payé la dette, et en plus, tu as fait tchouva. Bon, j'ai plus le droit de t'en tenir rigueur. Là, maintenant, il a des nouveaux problèmes. Mais ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire, mais quelqu'un qui a payé, il a payé. Ça va. S'il a demandé pardon et qu'il a payé, qui je suis pour venir continuer à lui mettre dessus? Certainement pas. Donc, ça, d'accord. Maintenant, l'homme et l'auteur. C'est un cours sur le livre de Shemot, je vous rappelle. Mais l'œuvre, l'homme et l'auteur. Je vais te donner deux exemples. Moi, ce matin, j'ai jeté les livres. C'est-à-dire, j'en avais que quatre à la maison. C'était pas la folie. J'étais pas un adepte, mais j'en ai jeté quatre. Maintenant, je vais donner deux contre-exemples. Enfin, un exemple et un autre contre-exemple. Il y a quelques années, il y a à quelques mois d'écart, il y a deux rabbins. Qui ont été aussi mêlés à des affaires comme ça. L'un d'entre eux, qui était Rosh Yeshiva, machin, que j'ai connu personnellement, on a dit, il y a deux jeunes qui, au moment de la plainte, avaient 30, 35 ans, mais qui ont dit que lorsqu'ils avaient 17 ans, et ils ont été voir le Rav pour lui demander des conseils, du réconfort, parce que les deux avaient, étaient homosexuels et ne savaient pas comment le gérer. Et ils ont raconté, les deux, que lorsqu'ils étaient dans le bureau avec le rabbin, hein, il les a enlacés très fortement et ça avait une connotation sexuelle. Ok. Voilà ce qui a la plainte. Voilà ce qui a été ouvert comme instruction en justice. Et voilà le Ktav Ishum. La condamnation a été sur quoi ? Sur le fait qu'il les a enlacés et que ça lui a procuré une satisfaction sexuelle. Et que donc, ça peut être assimilé à du harcèlement sexuel. Bon, c'est quand même assez léger, parce que c'est pas sûr. Et puis, on prête une intention. Les faits, il n'y a pas eu de viol ou de trucs comme ça. C'est pas ça qui lui est reproché. Donc, quand la paracha est sortie, il a écrit plein de livres, il a fait plein de cours, machin. J'avais demandé au Rav Cherki, est-ce qu'on peut continuer à étudier ? Il m'a dit, écoute, tant qu'on ne sait pas, machin, il ne faut plus aller à ces cours en live. Parce qu'on n'a pas le droit d'apprendre d'un Talmid Raham qui n'a pas de bonnes midot. Parce que tu risques d'apprendre aussi de ses mauvaises midot. Donc tant qu'on ne sait pas exactement le truc, va pas au cours. Par contre, étudier les bouquins, eh bien là, on va falloir faire une différence. Est-ce que sa Torah, ses livres, ses enseignements, parlent des sujets pour lesquels il est tombé ? Ou pas ? En l'occurrence, ce Rav-là, sa Torah, c'était de l'étude de texte. C'était pas, il parlait jamais pratiquement des midotes ou de la sexualité, de la vie intime, tout ça. Il parlait, il prenait le texte, il disait, regardez ce verset-là dans la paracha, en fait, on peut le remettre en relation avec un verset dans Divrei Hayamim parce que c'est le même mot, et que donc ça veut dire que c'est relié à la névoie de... Tu vois, ça avait rien à voir avec le sujet pour lequel il était interpellé. Donc il m'a dit, les livres, tu peux les garder. Quelques mois plus tard, il y a une autre histoire beaucoup plus grave avec un autre rabbin de Tzfat qui était Rosh Yeshiva aussi et qui était très 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 connu machin, qui s'est avéré, et là pour le coup avéré complet, avoir violé beaucoup de femmes mariées machin, les avoir complètement abusées, genre grave, mamache grave. La différence, c'est que donc un, ça s'était avéré, et deuxièmement, il avait écrit plein de livres, le monsieur. Seulement, tous ses livres parlaient de quoi ? De comment garder la brite, de comment être quelqu'un qui est bien au niveau de ses midotes et de sa sexualité, tout ça, machin. Toute sa Torah parlait de ce pourquoi il avait fauté. Tu dis, tu peux pas garder des livres comme ça. Parce que, qui te dit que maintenant, tu vas pas relire le truc et maintenant que tu sais ce qu'il a fait, tu vas peut-être apprendre autrement. Tu vas y voir des allusions. Tu peux pas faire un truc comme ça. Donc, un bonhomme qui, toute sa vie, c'est d'être un éducateur d'enfants, un thérapeute pour couple et un ishrinour de manière générale, et c'est dans ces domaines-là qu'il tombe, avec les enfants, avec les femmes mariées, avec...
Ça colle pas.
Ça lève. Donc, voilà la situation. Donc, tout ça pour dire que yesh alakha. C'est me'ot pashut. Me'ot pashut. En fait, c'est me'ot pashut. Moi, j'essaye, même si des fois c'est, ça prend pas énormément, mais moi j'essaye de jamais me retrouver dans l'ascenseur avec une fille. Et je te parle même pas des lois sur le Ihoud, parce que c'est pas Ihoud. Mais non, parce que à tout moment l'ascenseur il peut s'arrêter, parce que c'est pas toi qui décides quand l'ascenseur il s'arrête. Peut-être qu'il y a un mec qui a appelé l'ascenseur à l'étage d'après, et donc à tout moment il peut s'ouvrir. Donc c'est pas Ihoud, parce que c'est pas un endroit où tu es vraiment fermé avec la personne. Mais l'Erteda. Il suffit qu'après elle ait porté plainte et il m'a touché dans l'ascenseur. Donc moi, alors, des fois je fais pas attention et des fois je me retrouve dans la situation. Mais de manière générale, si je suis dans l'ascenseur, alors je monte pas quand c'est que du 1 contre 1. Et si jamais à un moment donné il y a tout le monde qui descend et on se retrouve que deux, je descends aussi. J'essaye. Et je termine à pied. Où je prendrai le prochain. Mais parce que oui, il faut se protéger, parce que oui, aujourd'hui, on est dans une société où malheureusement, on a vu des femmes qui ont dit des choses sur des hommes et qui n'étaient pas vraies. Mais en aucun cas, quand la personne, elle vient se plaindre, on doit penser à l'Echatrila que c'est une menteuse. Toi, tu dois te protéger. Il y a des halachot, de yichoud et de machin, c'est sûr. Mais à aucun moment, tu dois remettre en cause la parole de la personne. Et c'est très bien que c'est... Tu es coupable jusqu'à preuve du contraire. Tu n'avais qu'à pas te mettre dans ce genre de situation. Il me colle à cabane. Je suis désolé. J'ai pas... Enfin, peut-être que je vais être dur, mais on entend, on est un public francophone, on entend plein de choses sur... des célébrités francophones, des machins, des plus connus, des moins connus. Et toutes les 5 minutes, il y a une nouvelle affaire qui sort. Maintenant, je veux bien croire qu'il y a des affaires qui ne sont pas vraies, qu'il y a des histoires d'argent, des histoires de vengeance, etc. Je veux bien entendre. Mais il y a un moment donné, je veux dire, pourquoi tout le temps, c'est des gens qui se mettent dans des situations où on ne sait pas s'il l'a vraiment touché, mais il était complètement ivre avec elle dans un endroit seul, machin, non, mais... Allô ? C'est pas pour rien qu'on t'a dit que ça n'existe pas, que tu es dans une pièce fermée avec une fille. C'est pas pour rien qu'on t'a dit ça. C'est de la sorte. Donc, il faut faire très attention à ce genre de choses. J'invite toutes les personnes, voilà, je le dis devant la caméra, j'invite toutes les personnes, hommes, femmes, enfants, qui ont été victimes d'agressions, à venir se plaindre, à le dire, que ce soit au rabbanim, à la police, il faut le dire. Il faut casser un système qui protège les agresseurs.
Oui, ça c'est sûr.
C'est-à-dire donc voilà. Ceci étant dit, on peut continuer peut-être Yofi.
Et tout le monde fait partie de...
Non, parce qu'il y a même des gens qui ont été jusqu'à dire que... Parce qu'il y a des rabbins qui ont dit il n'a rien fait. Malgré toutes les preuves qui ont été amenées.
Sur quelle preuve il dit ça?
Aucune.
Ah, voilà. Ça, c'est dégueulant.
À tel point qu'il y a des gens qui ont dit... Non, mais le Rav qui a dit ça, c'est Roi HaKodesh. Et c'est terriblement dangereux. Terriblement dangereux. Terriblement dangereux.
Non, ils veulent protéger.
Halakha.
Oui.
C'est pour ça qu'on avait commencé à cause de ça.
Ouais, c'est vrai.
C'est-à-dire, même si la personne est la Roi HaKodesh, c'est pas comme ça qu'on décide de la Halakha. Un prophète, une fois qu'il est prophète, il peut pas être au Sanhedrin. C'est-à-dire qu'au moment où il siège au Sanhedrin, il joue pas sa carte prophète. Juste la carte à l'achat. Hein? Toiv. En tout cas, revenons à notre machatzit à Shekel. Iné. Ayashir lo yarbe. Ve'adal lo yamit. Mi machatzit à Shekel. La tête est tourmat Hashem le chaper à nafshotechem. Donc, c'est un impôt très particulier, le machatzit à Shekel, puisque c'est un impôt. Chacun doit donner une fois par an. Mais, c'est le même montant pour tout le monde.
Je peux poser une question de grammaire, de dictée, pourquoi
Shekel et Shekel.
Il dit Shekel.
Ouais, c'est Shekel. Justement, comme tu dis, c'est pour des raisons de grammaire.
D'accord.
De, est-ce que c'est Milra ou Mil El? C'est des questions de grammaire.
Ok.
Viens, on rentre pas là-dedans là maintenant.
Ok, d'accord.
Il y a un sketch là, Milra, Mil El, de
Gachach Arriver. Ah, Gachach Arriver, ok. Si tu en es à regarder le gâchage archivaire, ça veut dire que ton intégration se passe très bien. C'est très bien.
Et de comprendre.
Vela karta et kesef a kippurim et bene Israël, venatata oto al avodat oel moed, vaya livne Israël et zikaron, livne Hashem le chaper an nafshotechem. Et oui, cet argent-là, il sert à quoi? On en fait quoi? Une fois par an, tout le monde vient se faire. Ah oui! On n'a pas expliqué. On a commencé tout ça parce qu'on parlait de 20 ans.
Ron, oui,
et on a dit pourquoi 20 ans?
Ouais.
Alors là, ma 20 ans, on dit, c'est pas une question de... On te donne plus de neshama.
On rentre à l'armée, non?
Bidouk! C'est l'âge où tu rentres à l'armée. Pourquoi on a été compté ici? Parce que on va faire l'itzbot, ça va. Donc, c'est qui les gens qui peuvent commencer à être dans la vie active? C'est ceux qui vont à la guerre.
D'accord. Donc les femmes, on les compte pas.
D'accord. C'est ça? Donc, cet impôt-là, il va servir à quoi? On va acheter quoi avec cet argent? On va acheter tous les korbanot tzibour. Hein?
Pour le fonctionnement du mishkan.
Alors, en particulier, les korbanot tzibour. C'est-à-dire, tous les sacrifices qu'on fait tous les jours pour le klal, c'est avec cet argent-là. C'est-à-dire, ça veut dire que un riche, je sais pas, un mec qui est très très riche, imagine, demain, on construit le Beth Amikdash. Et je sais pas, moi... Est-ce qu'il est riche juif aujourd'hui?
Ah, ben il y en a qui voulaient.
C'est qui les riches juifs aujourd'hui?
Celui qui voulait construire.
Ah, Laurent Lévy. Oui, non, alors par exemple, Laurent Lévy, je sais pas, prenez n'importe qui est juif.
Qui est riche ou qui est juif?
Qui est juif et riche. Je sais pas, comment il s'appelle, Zuckerberg, il est juif?
Ouais.
Ouais. Et bien alors disons que Mark Zuckerberg, il te dit, moi, Adi Torem et Kola Korbanot, la Shana Azot. On peut pas. C'est très gentil de ta part, Kola Kavod, mais c'est pas possible. Parce que Korban Tamid, ça doit venir de tout le peuple juif. C'est ça? Ok? Vaïdaber Hashem, El Moshe, les morts. Ve'asita kiyor nechoshet ve'kano nechoshet lerotza ve'natata oto ben oel moed uben amizbeach ve'natata shamma maim. Donc à l'entrée du Beth Amikdash, enfin, du Mishkan, c'est ça, et du Beth Amikdash aussi, il y aura un kiyor.
Un évier,
oui. C'est plus une station de lavement. De lavement de quoi?
Des mains et des pieds.
Et voilà. Verachatsu Aaron Umanav Mimeno et Yedem Vet Raglé.
Pourquoi on passe du coq à l'âne?
Oui.
Parce que c'était chez quel à ça, comme ça.
Bah, on parle des derniers, des dernières choses qu'on a besoin pour le fonctionnement du Mishkan.
Peut-être, mais pourquoi est-ce qu'on...
Pourquoi
est-ce qu'on a interposé Machatzit HaShekel?
Tu te rappelles, on a dit Machatzit HaShekel, c'est la notion de tout le clan d'Israël. On a expliqué, y compris ceux qui ont fauté. On a besoin de tout le monde. Là, la avoda, enfin le kior, il sert à quoi? Al kadesh et à Kohen, sheolech la avod, le chaper al nafshotenu. Donc le Kohen, il va servir à justement rapprocher tout le monde. Pour ça, il doit pouvoir se rentrer dans la avoda. Pour se rentrer dans la avoda, il va faire une tfilat yadaim veraglaim. Aujourd'hui, on fait que yadaim parce qu'on n'est pas au Beth Amikdash. Mais normalement, le Kohen, quand il va faire birkat Kohanim, tu devrais lui laver les pieds aussi. Comme on n'est pas au Beth Amikdash, alors on fait que les mains. Maintenant, pourquoi donc c'est maintenant? Parce que ce kiddush yadaim veraglaim, c'est pour que le Kohen puisse commencer à faire son boulot. De quoi? De rattacher et rapprocher tout le peuple juif. On est dans la même idée. La question qu'on pourrait poser, c'est pourquoi il est en nechoshet? Pourquoi il est en cuivre?
Le cuivre, c'est un alliage de culture.
Je ne sais pas,
je ne pense pas.
C'est un matériau. Et pourquoi il est en cuivre? D'habitude, on a vu des ustensiles en or, en argent. On avait déjà vu le misbeach à Nechoshet, mais Metsupezav. Compliqué cette histoire. Là, on a un kior qui est complètement en Nechoshet. À quoi fait référence le cuivre dans le judaïsme? Mazé à Nechoshet. Eh bien, le Nechoshet, c'est plusieurs choses. Il y a un rapport avec le Nachash, tout à fait. Nechoshet, c'est le bgam abrit. C'est les tendances sexuelles.
Quel rapport.
De la même façon que l'or, c'est l'intellect, et que l'argent, c'est les sentiments. Et que l'acier, c'est... c'est le fait d'avancer, c'est le mouvement. Et oui, car vous vous rappelez évidemment du rêve de Nabucodonosor. Et oui,
le fameux.
Dans son rêve, il voit une statue avec une tête en or, un tronc en argent, un bassin en cuivre et des pieds en fer et en argile. C'est-à-dire, donc la tête, c'est l'or, le tronc, le buste, c'est l'argent, les parties intimes, c'est le cuivre. Donc ça fait référence à ce genre de néphila.
Attends, juste deux secondes. Oui. Nabucodonosor n'est pas juif.
Pardon.
Pourquoi est-ce qu'on s'inspire de ce qu'il est arrivé pour nous?
Ah, parce que c'est Daniel qui lui a donné la réponse de ce rêve.
Okay.
Personne n'a compris dans sa mamlacha, dans toute Babylone, qu'est-ce qu'il voulait dire son rêve. Okay. Il a dit, je t'explique. Et il lui a expliqué également que les quatre parties représentaient les quatre malchouyot, les quatre royaumes, que Babylone c'était l'or, que l'argent c'était la Perse, et que le cuivre c'était la Grèce.
C'est un lien entre Babylone et la terre.
Bien sûr. Bien sûr.
Parce que la Grèce.
La Grèce c'est très intellectuel aussi. Hein.
Ouais,
oui, mais la Grèce, Zegam, et Mamlechet Agouf. faire. Donc on a aussi ce problème-là.
On parle de la beauté grecque.
Oui.
Non, il y a aussi, tu as raison, il y a aussi l'intellect grec, mais c'est aussi tout cet intellect était mis au service de l'apparence, de l'aspect. C'est-à-dire, donc il faut être métaken pour commencer à rentrer au Beth Amikdash à cet endroit-là. C'est-à-dire, et verra que toi, on va dans le menu et t'aider à mettre les glaimes, bévoir, mais la roue, le moël. Ah, parce que c'est pas avec tout le corps que Ani Oved. Ani Oved, il m'a dit d'aim et avec les pieds. J'avance avec mes pieds et je utilise mes mains pour faire la voda. Qu'est-ce qui me sert à avancer dans la voda? Ok? בבוא המלוא אל מועד יחצו מים ולא ימותו או בגשתם אל המזבח לשרת להקטיר אישי השם ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו והייתה להם חוק עולם לו ולזרו לדורותם נכון ואוי, פסקו לבוט דה סרוויר זה פור לעם ישראל סי נפה פס כיפו פור לרתשי הכלל ישראל ישראל, ידע פה את ריסי D'accord? Parce que c'est quoi un Kohen qui ferait les choses, qui servirait au temple, pas pour Amisraël, ça veut dire pour lui. Donc qu'est-ce qu'il veut? Il veut se rapprocher uniquement de Dieu. Ça veut dire mourir. S'il n'est pas là pour nous. Ok? S'il n'est pas là pour nous, il ne sort plus du Kodesh HaKodeshim. Il y est, il y reste. D'accord? Vaïdaber! Non, ben non, pas Vaïdaber. Vaïdaber, ben non. Oui, le Dorotam, tout à fait. Et c'est vrai que le verset suivant, c'est Vaïdaber Hachem et Moshe les morts. Aval, on ne pourra malheureusement pas évoquer ce que dit Dieu à ce moment-là à Moshe, parce que le temps nous est compté. Parce que quelqu'un a voulu qu'on parle d'autre chose pendant la grande majorité du cours. Donc on verra ce que Dieu dit à Moshe la prochaine fois. Chazak ou Baruch.